Samouraï, les Nantais ont des choses à écrire sur Jet FM 91.2.
J'ai l'impression de respirer l'air frais pour la première fois. Une sensation étrange vu qu'en réalité c'est plutôt la dernière. La seule chose que j'aurais réussi à accomplir finalement, ça aurait été de tuer mon chat. Avant, ou pour être plus précis encore avant, je ne m'étais jamais distingué par quoi que ce soit, ni par la croyance en des idées absurdes, ni par des comportements louches, ni par rien de ce qui permet de distinguer un individu parmi ses semblables. J'étais d'une normalité impeccable. J'avais une femme, des amis, un chat, des voisins, j'étais calibré sur les standards en vigueur, on ne m'aurait pas plus remarqué dans une banque de données qu'une sardine dans son banc de sardines. Enfin, donc, entre-temps, j'ai changé. Je ne me reconnais plus.
Connais-toi toi-même. C'est dans l'imaginaire de Marc Montel qu'ont germé les doutes existentiels de Pavel, le héros de son premier roman, En veille, qui explore les profondeurs de notre humanité et questionne les dangereuses tentations d'une société eugéniste. Tout comme les traumas enfouis de son héros, le secret du véritable nom de ce nouvel auteur restera bien gardé.
Bonjour.
Alors, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter brièvement ?
Oui, alors je suis un Nantais de 40 ans tout juste. Je viens de fêter mon anniversaire il y a très peu de temps. Et j'en suis venu à écrire parce que après la fac d'histoire, j'avais commencé à faire un petit peu des sketchs, à me produire sur scène. Et de fil en aiguille, bon, bah, avec ces petits textes, j'ai pris goût à l'écriture. Et comme, je dirais, le comique, en fait, c'est quand même une contrainte, c'est-à-dire qu'il faut faire rire, et on n'a pas toujours envie de faire rire, bah, j'ai fini par me dire, bon, bah, je vais commencer à écrire des romans pour pouvoir développer un peu plus la palette des émotions. Et donc, j'ai écrit quelques petites nouvelles qui n'ont pas été publiées, mais qui m'ont mis un peu le pied à l'étrier pour écrire de la fiction. Et donc, de fil en aiguille, bah, j'en suis venu à écrire mon premier roman. Donc.
En veille, voilà. Ouais. Et qui a été publié il y a deux ans.
Il y a deux ans, ouais.
Mmh. Aux éditions Libris Ferrat.
Ouais, c'est ouais. Ça.
Dans En veille, on est plongé dans le commun homo, une société utopique, eugéniste et totalitaire, dont le but ultime est d'atteindre une harmonie totale entre les habitants, mais aussi et surtout une harmonie individuelle intérieure beaucoup plus intime. On suit les aventures de Pavel, acteur malgré lui de cette grande entreprise, qui, en revivant des fragments de sa vie antérieure, fait l'expérience de ses traumatismes passés et du cortège d'émotions associées. D'ordinaire contenu par un inhibiteur, Pavel se retrouve déstabilisé et remet petit à petit en question le monde qui l'entoure et le bien fondé de son organisation.
Ouais,
c'est bien ça ?
C'est exactement ça.
Est-ce que tu peux nous dire ce qui a motivé ce projet d'écriture et tes sources d'inspiration ? Tu en es venu à avoir l'idée d'un roman, d'une dystopie.
Ouais, c'est complètement ça. C'est volontairement très inspiré de Huxley, Le meilleur des mondes, et des grandes dystopies d'une manière générale. Ouais. Donc l'idée d'une société totalitaire, c'était par rapport aux inquiétudes qu'on peut avoir sur les systèmes un petit peu comme bah, certaines parties de la Chine, les crédits sociaux, les choses comme ça, un petit peu une société techno-sécuritaire. Et donc, c'est une manière pour moi d'exorciser un petit peu toutes ces craintes-là. C'est très dans l'air du temps, hein, les dystopies.
C'est très dans l'air du temps de nous faire flipper un petit peu.
Exactement.
Et d'alimenter.
Des mises en garde et tout ça.
Exactement.
J'avais pensé faire une réécriture de Macbeth. Mais bon, je me suis dit, bon, qui es-tu pour réécrire Macbeth ? Faut arrêter un petit peu le délire. Et donc, je suis parti sur autre chose, donc une dystopie en l'occurrence. Mais tout en gardant cette structure de la tragédie. Et donc, on retrouve l'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action, avec aussi cette idée, un petit peu comme Œdipe, mon héros, en fait, essaye de modifier son destin, d'avoir un peu une prise sur son destin, mais en essayant de le faire, il va finalement accomplir son destin. Sauf que Œdipe, lui, il se basait plutôt sur les prédictions de l'oracle de Delphes, donc des prévisions dans le futur. Et mon héros à moi, il se base sur, disons, des données qui sont liées à ses vies antérieures, donc sur une vision un peu plus fragmentaire de son passé. Donc du coup, ça lui donne pas toute la perspective pour agir de manière adéquate, c'est très contre-productif. Il accomplit son destin en essayant de le modifier, quoi. Voilà, voilà.
En dehors de ce roman-ci, est-ce que tu pourrais essayer de trouver un mot qui illustrerait le mieux l'origine de ton projet d'écriture, mais globalement?
Je dirais névrose. Bah, en fait, en gros, ouais, c'est une façon pour moi, je pense, d'économiser un psy. Plus sérieusement, c'est vrai que j'ai souvent des idées qui tournent un petit peu dans ma tête, ou des sujets qui m'énervent, ou des choses comme ça, et j'ai remarqué que le fait de les faire dire par un personnage, par exemple, de les sortir de moi et de les coucher par écrit, de les formuler une bonne fois pour toutes, en fait, ça me permet d'aller de l'avant et de pas ruminer, en fait. Ça me permet de m'extraire de mes ruminations, je pense.
Ouais. Une écriture thérapeutique.
Un petit peu, ouais. Bon, après, je sais pas si ça fait le même effet chez le lecteur.
Est-ce que cette envie d'écrire, tu l'as toujours eue? Est-ce qu'il y a un livre qui a marqué ton enfance ou alors ton adolescence et qui aurait suscité en toi une vocation d'écrivain? En tout cas, qui a marqué ton expérience de lecteur?
Ouais, alors quand j'étais petit, je lisais beaucoup de contes au primaire, des contes de un peu partout. Et puis après, j'ai découvert Roald Dahl. Alors j'ai eu ma période monomaniaque, Roald Dahl, j'ai tout lu. Et puis après, à l'adolescence, j'ai eu une autre période monomaniaque de Stephen King. Ma vocation d'écriture, je dirais, enfin vraiment l'envie d'écrire, c'est quand j'avais fait un mémoire sur Coluche et des proches à la fac, en fac d'histoire. Et donc, je m'étais rendu compte que ces gens avaient une liberté d'expression à peu près totale et qu'ils pouvaient, ouais... Il y avait un vrai pouvoir dans les mots qu'ils utilisaient. Déjà celui de faire rire, et puis celui de faire réfléchir aussi, de tout ce qu'on attend un petit peu de l'écriture, quoi, enfin de la lecture. Et donc j'avais vu vraiment un monde de liberté qui s'ouvrait, quoi. C'est vrai que quand on écrit, personne ne nous demande rien. C'est un peu un exercice qu'on s'impose à soi-même. Et donc, c'est vrai que c'est une liberté qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs dans la vie professionnelle, etc. etc.
Et même en enlevant le filtre de l'humour, comme tu l'as dit au départ, puisque au départ, tu pensais peut-être que justement cette liberté, elle se jouait à travers un regard
humoristique.
En fait, tu as découvert que non, il y avait tout un champ de possibles.
Je le savais déjà, mais c'est vrai que j'ai commencé par l'humour, et c'est vrai que la structure... d'un sketch, en fait, c'est un enchaînement de blagues, et après, il faut tisser un petit peu toute la continuité entre les blagues. Et c'est vrai que ça donne une méthode un petit peu que j'ai toujours gardée. Je continue à écrire mes idées comme ça. Disons que la contrainte, ça aide quand même à écrire, parce que c'est comme, je sais pas, un mur pour poser une échelle, quoi. C'est quelque chose qui permet, mine de rien, d'avancer.
Des fondements, des
fondations. Voilà, exactement. Et après, une fois que j'ai eu l'impression pas d'en avoir fait le tour, parce que j'étais loin d'en avoir fait le tour, mais j'avais envie de m'ouvrir à autre chose, et être un peu plus larmoyant, plus lyrique, j'en sais rien. Et donc,
De toucher autrement.
Voilà, exactement.
Et justement, puisque tu parles... Tu parles des contraintes. Est-ce qu'il y a des rituels que tu t'imposes pour écrire? Est-ce que ta pratique, elle est toujours comme ça, assez contrainte?
Complètement.
Alors, est-ce que tu peux la dévoiler?
J'ai une routine d'écriture qui est complètement verrouillée. En gros, alors, je fonctionne chapitre par chapitre. J'écris, mettons, tout un après-midi, en ayant quand même un petit peu pensé avant de me mettre à écrire. Et après, le lendemain, je relis ce que j'ai écrit, je corrige. Et l'après-midi, je continue sur la suite de ce que j'avais commencé à écrire. Et donc, en fait, je fonctionne un petit peu comme ça. L'après-midi, j'écris, et le matin, je me relis. Et quand j'écris, je ne sais jamais comment ça va se finir, en fait. L'histoire s'invente au fur et à mesure.
Ouais. Ah oui.
Ouais. Je pars d'un point, mais je ne connais pas l'arrivée. Donc, du coup, ça me permet aussi de bifurquer, de me surprendre moi-même, et je me dis que ça sera peut-être moins téléphoné si moi-même je connais pas la fin.
En fait, pour pas avoir tout de suite un schéma narratif dans lequel après tu t'es, voilà, t'es obligé de rester.
Bah c'est ça, exactement. Ouais.
Te donner la liberté de
Bifurquer à un moment donné ou de faire un twist, plusieurs twists ou enfin ouais.
Du coup, parfois, tu te laisses surprendre par tes propres personnages.
Voilà, mais c'est ça, mais exactement. Et une fois que j'ai fini mon dernier chapitre, où je réécris tout carrément, ça me permet en fait d'harmoniser le style globalement dans le bouquin, parce que des fois, on commence avec un style, une voix un petit peu du narrateur, qui évolue au fil de l'histoire, parce que pour une raison ou pour une autre. Mais donc, du coup, c'est vrai que le fait de reprendre tout depuis le début, ça permet d'harmoniser le style et puis ça permet aussi de corriger les petites imperfections, les incohérences, les choses comme ça, qui enlever les scories, essayer de tout réaligner.
De redonner une cohérence, voilà, et de rendre joli,
voilà,
le texte.
Ouais.
Et quand tu dis imperfection, est-ce qu'il y a des choses que tu chasses systématiquement ?
Mais j'essaye de me forcer à pas mettre trop d'adverbes. Par exemple, je sais pas, il était passablement en colère, et donc du coup, ça, je fais un peu la chasse à ça parce que j'ai tendance à en mettre beaucoup trop, et et ça alourdit complètement le texte, et c'est pas terrible.
Quand tu écris, c'est sur quel support ? Est-ce que tu utilises toujours un ordinateur, un cahier d'écriture, un carnet ? Est-ce que tu prends des notes toute la journée ? Comment ça se passe ?
Ah bah alors, j'écris sur plusieurs supports. En fait, quand j'ai des idées qui me viennent, je les écris par écrit, à moins que ce soit des idées qui sont vraiment liées au chapitre qui est en cours, quoi, ou des chapitres que j'ai déjà écrits. À ce moment-là, je les écris sur l'ordinateur directement à l'endroit où c'est supposé s'insérer. Et puis, c'est vrai que des fois, j'ai des idées à des moments impromptus. Des fois, je me réveille la nuit parce que j'ai une idée. Et donc, je rallume la lumière et j'écris. C'est vraiment cool. Ça, c'est des moments de... Quand on a une bonne inspiration, et c'est presque jouissif, quoi. D'être là, il faut surtout pas que j'oublie ça et tout. Et c'est vrai que j'ai pas de carnet sur moi quand je suis dans la rue. Donc, du coup, je m'envoie des SMS. Parce que j'ai pas de smartphone, donc du coup je m'envoie des SMS et puis quand je reviens chez moi, je les note dans mes notes, je les ajoute à mes notes.
Okay. Ouais. La fulgurance.
La fulgurance en T9.
La fulgurance en T9, c'est très bien. Je pense que ça pourrait être le titre de ton projet.
Oh ouais, c'est...
C'est
clair.
Ton récit, il est aussi ponctué de notes d'humour.
Ouais. L'humour, ça fait quand même partie intégrante de mon écriture. Je suis venu à l'écriture avec l'humour et donc du coup, c'est vrai que j'essaye de garder ça et puis ne serait-ce que parce que j'aime bien me marrer en lisant, donc j'essaye de faire marrer mon lecteur aussi un petit peu. Tant que faire se peut.
C'est une manière aussi un peu de garder de prendre de la distance. Juste, vous parlez d'humilité tout à l'heure.
Ouais. Foutre un peu d'ironie, pas se prendre trop au sérieux aussi. Ouais. Ouais, et puis c'est quand même des fois des sujets un peu lourds, quoi. Le contrôle social, les choses comme ça. Ouais. Du coup, c'est vrai que foutre un petit peu d'humour, ça, des fois c'est bienvenu. Ça rend le truc un peu plus léger, on va dire.
Nous parler de tes projets futurs.
J'ai fini un bouquin qui, donc ça se déroule au Moyen-Âge. Ça m'a été inspiré par l'anecdote du retour des reliques de Saint-Louis. Donc Saint-Louis est mort à Tunis en 1270, et donc pour qu'il soit enterré en terre chrétienne, avant qu'il soit canonisé, en fait, ils pensaient l'enterrer, donc avant d'en faire des reliques. Et donc ils ont bouilli son corps, ils ont séparé les chairs des os et ils les ont rapatriés donc pour pouvoir les conserver. Ça s'appelle le rite teutonique. Et donc je me suis dit, mais ça c'est un sujet de bouquin, ouais, c'est du tout cuit dans le bec, j'ai envie de dire. Et donc du coup, c'est un road trip médiéval et donc c'est quand même en forme de critique du fanatisme, autant politique que religieux, quoi. Et donc c'est un petit peu comme la dystopie, en général c'est un futur proche qui parle surtout de notre présent, là c'est un passé qui interroge aussi notre présent. Voilà, donc je l'ai vu un petit peu comme ça, donc c'est vraiment un road trip médiéval, et là je suis en train d'écrire un autre bouquin C'est l'histoire d'un couple qui achète des peintures à un petit artiste de rue et qui se retrouve à se faire couper les allocations et avoir un trop-perçu de la CAF, et donc ils sont complètement ruinés. Et donc ils décident de tuer le peintre pour faire monter sa cote et pouvoir vendre les peintures et se renflouer.
C'est plutôt un polar.
C'est un polar. Et puis oui, en parallèle, il y a des intermèdes où, bon, c'est un petit peu burlesque, mais oui, c'est une société un peu fascistoïde où ils sont à fond sur la sécurité. Et donc, il y a une cellule parapsychologique, un petit peu comme Minority Report, qui a embauché des médiums et des radiesthésistes, et ça ressemble plus à Julie Lescaut qu'à Tom Cruise, mais donc voilà. Et donc ça crée un petit peu une tension. Je n'en dis pas plus, d'ailleurs je n'en sais pas plus, parce que je ne sais pas comment ça va se finir.
Alors pour clore cet entretien, est-ce que tu pourrais associer ton travail à une musique ?
Ouais, complètement. Le matin, quand je me relis, en général, j'écoute du Chopin. Donc ça me met dans un état d'esprit particulier, mais que j'associe en fait à... C'est vraiment une routine, quoi, et que j'associe donc à ces instants de relecture, quoi, relecture-correction. Et l'après-midi, quand je me plonge dans mes idées avant vraiment d'écrire, j'écoute du Hendrix, tout le temps. Et donc, ça fait des années que...
Ok, merci beaucoup.
Eh ben, merci
à toi. Merci Marc Montel. Au plaisir de te retrouver dans ton prochain livre.
Eh ben, moi aussi. A thousand smiles.